Et juste avant la revue de presse avec Benjamin Glaise, c'est hashtag on en parle.
Oui, doit-on dire aujourd'hui, Benjamin, fantastique décembre au lieu de joyeux Noël? Bah, c'est la polémique lancée par Éric Ciotti, le candidat LR à l'investiture présidentielle, après la découverte faite à Besançon.
Hein. Eh oui, chronique de Noël, musique de Noël, mon cher Patrick, bien sûr.
Oh,
bah oui. Sympa. Bon, le problème, c'est que la musique n'adoucit pas forcément les mœurs. À cause de cette question, donc le terme de Noël a-t-il déserté les rues de Besançon? Eh bien, à en croire Eric Ciotti, oui. La preuve, selon lui, avec cette photo que l'on découvre avec ce message fantastique décembre à Besançon. Un message qui s'affiche en grand sur les illuminations d'une rue de la ville et qui n'a pas plu donc à Eric Ciotti, qui s'en est agacé sur Twitter. Je le cite. À Besançon, grâce à la mère écolo, on dit plus joyeux Noël, mais plutôt fantastique décembre. Un tweet dans lequel il épingle également les destructeurs d'extrême gauche et les macronistes. Le souci, c'est que le candidat au congrès LR accuse à tort la maire de Besançon, Anne Vigneault, tout d'abord parce que le nom Fantastique Décembre a été choisi en réalité non pas par la mairie, mais par l'Office du commerce et de l'artisanat de Besançon, un nom qui en outre n'est pas nouveau. Il est utilisé déjà depuis 2019, soit avant l'élection d'Anne Vigneault en 2020. Et puis, dernier élément important, s'il n'est pas dans l'illumination prise en photo, le terme Noël figure quand même pas moins de 150 fois, tout de même, dans le programme des animations, programme en l'occurrence de 17 pages. Et puis avant même les accusations d'Éric Ciotti, le compte Twitter de la mairie de Besançon annonçait pour sa part que la magie de Noël commence à l'occasion du lancement des festivités, qu'il se rassure donc, on le dit bien, encore Noël du côté de Besançon. Mais Éric Ciotti persiste et signe dans un nouveau tweet, cette fois-ci, on ne me fera pas taire face aux graves dérives imposées à des milliers de Français par des maires d'extrême gauche. Bon, pour le coup, il faut avouer que sur Besançon, bah, il était plutôt à côté. Éric Ciotti, c'est plutôt une bourde de sa part.
Mais ça a beaucoup réagi sur les réseaux sociaux. Hein. Ça, c'est vrai, autour de ce fantastique décembre. Comme quoi, il y a toujours la magie de Noël. La revue de presse. Mon cher Benjamin, la crise multiple à la une de Libération, c'est au sujet de la situation aux Antilles.
Ben oui, crise sanitaire, sociale, institutionnelle. Après plusieurs jours de tension, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, est donc arrivé hier pour une visite express en Guadeloupe et en Martinique. Le gouvernement dans le piège, titre pour sa part le Figaro, obligation vaccinale, revendication sociale, l'exécutif cherche à éteindre l'incendie, mais les déclarations du ministre sur l'autonomie relancent le débat sur la politique ultramarine de l'exécutif. Alors que la Guadeloupe accuse Paris de la négliger, le ministre des Outre-mer lui propose plus d'autonomie. Curieux coup de poker, sur place personne ne demande l'autonomie, écrit Yves Tréhard, notamment dans son édito à lire dans le Figaro.
Oui, la pandémie à la une des Échos aussi, et l'inquiétude qui revient.
Oui, mobilisation générale contre le nouveau variant identifié en Afrique du Sud. Le ministère de la Santé accélère la campagne de vaccination et de rappel. La vigilance la plus accrue s'impose sur le continent, selon le commissaire européen Thierry Breton. Les interdictions de vol depuis et vers l'Afrique australe se multiplient. Tout cela provoque évidemment une tension sur les marchés face au risque d'une onde de choc économique.
Oui, Sud-Ouest pour sa part qui rend hommage ce matin à Joséphine Baker, une légende au Panthéon.
Oui, puisque c'est demain que Joséphine Baker sera la première femme noire et artiste de spectacle vivant entrée au Panthéon. Elle fut à la fois donc artiste, mais aussi militante antiraciste, résistante, nous rappelle Sud-Ouest. Elle qui eut un coup de foudre pour la France, notamment pour le Périgord où elle habita dès 1936 dans le château de Milan. Sud-Ouest qui met donc à l'honneur Joséphine Baker à la veille de sa panthéonisation.
Oui, il y a le procès d'un fait divers qui est à la une de Midi Libre, qui avait suscité, écoutez bien, beaucoup de bruit à l'époque. Hein.
Ouais, l'histoire d'un cambriolage sanglant dans l'Hérault. Nous étions en 2017 chez lui. À Servian, Daniel Malgouyer a tué un cambrioleur. Légitime défense ou con monté, comme l'affirment ces deux co-accusés. Eh bien, le procès s'ouvre aujourd'hui à Montpellier. La fin d'un mystère, se demande Midi Libre en une, donc ce matin.
Oui, c'est ça. Il y aurait eu un montage, en fait, une histoire aussi dans le couple. Hein. La politique et Zemmour qui va-t-il faire pchit.
Oui, est-ce que sa candidature va faire pchit? En tout cas, c'est la question que se pose le Parisien aujourd'hui en France. Des sondages à la baisse, des manifestations hostiles et des soutiens qui prennent leur distance. Le polémiste marque le pas alors qu'il doit officialiser sa candidature à la présidentielle dans les prochains jours. Le Parisien, qui n'a certes pas choisi la photo de cet échange de doigts d'honneur avec une manifestante ce week-end à Marseille, mais ses propos rapportés témoignent de ses doutes dans le Parisien, ceux d'un soutien du polémiste Zemmour. Elle n'arrive pas à tuer Éric. Il est parti de CNews, mais il continue continue à faire du CNews, nous indique-t-il. Le Parisien aujourd'hui en France qui met en exergue ce chiffre de 15%, le maximum d'intentions de vote, et qu'il recueille selon les derniers sondages. Et sa surexposition médiatique a fini par lasser, c'est ce qu'indique un politologue dans Le Parisien aujourd'hui en France.
Voilà, et nous arrivons donc au mois de décembre, et la neige apparaît, et des automobilistes du coup bloqués justement par cette neige, c'est à la une de la montagne.
Ben oui, Arthur en parlait dans son rappel des titres à l'instant, bloqué sur la 89, premier flocon de neige et première galère hier pour les automobilistes. Autoroute A89 qui a dû être fermée à la circulation, à tiers de nombreux véhicules ont été bloqués durant plusieurs heures dans les deux sens. On le voit d'ailleurs avec cette photo d'automobilistes descendus de leur voiture en train de se promener sur l'autoroute pour tuer un peu le temps. Et les averses ont concerné tous les massifs du département, nous indique la montagne, alors qu'Arthur nous disait à l'instant que la 89 a rouvert pour sa part.
Oui, c'est ça. Et par exemple, ce que nous écrit une auditrice, Marie-France, eh bien, c'est que les GPS ont été actionnés, ont fait sortir de l'autoroute à 89 beaucoup d'automobilistes qui sont allés se perdre un petit peu en Auvergne et se perdre surtout dans le fossé, quoi, pour certains, évidemment, parce que ça patinait sur les petites routes secondaires. Hein, donc attention, ils n'étaient pas équipés de ces pneus neige. Tiens, la neige aussi à la une de la République des Pyrénées. Éric Belli, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Oui, je disais, la neige également, comme à la montagne, la une de la montagne en Auvergne, également à la une de la République des Pyrénées, hein, ce matin.
Oui, oui, on l'a accroché à la une, même si après, je vais vous expliquer qu'on a dû changer un petit peu notre fusil d'épaule.
Ah bon ?
Oui, la neige est arrivée à 900 mètres d'altitude, donc on avait tout le Piémont enneigé avec 40 ou 50 centimètres. Bon, rien d'exceptionnel en cette période de l'année, mais voilà, du blanc s'est invité dans notre paysage. C'est une situation qui va durer jusqu'à midi, où il peut y avoir encore quelques chutes aujourd'hui.
Attention dans la région, hein, donc c'est ce que vous dites. Voilà. Oui. Et vous avez changé alors, oui.
Une légende du rugby s'est éteinte dimanche matin. François Monclat, emblématique capitaine de la section paloise titrée en 1964, mais aussi du 15 de France, avec qui il a connu 31 sélections, dont 18 capitanats, et participé à des tournées mythiques, dont celle en Afrique du Sud en 1958, une tournée qui l'a marqué à vie. Il y a découvert la réalité de l'apartheid et ça a contribué à aiguiser sa conscience politique, parce que François Monclat était un meneur d'hommes, mais aussi un homme engagé et qui a militant CGT de toute sa vie. Il a été communiste à partir de 1980 et fortement engagé contre l'apartheid et le désarmement nucléaire.
Oui, François Monclat, il fallait lui rendre hommage, vous avez bien raison, à la République des Pyrénées, Éric Belli. Donc, disparition, François Monclat qui s'est éteint hier, icône du rugby en Béarn, et puis même en France dans ces années-là, et puis homme également, bien sûr, très engagé. Oui, le rugby d'avant, légendaire, hein, c'est la une de la République des Pyrénées. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, les grands débats du matin, toutes les questions évidemment sur la table, autour de la vaccination, autour de la campagne à droite, autour du doigt d'honneur toujours d'Éric Zemmour. Et puis tout à l'heure aussi, vous verrez à 9h, avant de retrouver Guillaume Tabar, qui a écrit « Macron, la révolution inachevée » aux éditions Robert Laffont. Vous pourrez poser toutes vos questions d'ailleurs à Guillaume Tabar, qui a bien suivi Emmanuel Macron sur cette révolution inachevée qui était annoncée dans son livre Emmanuel Macron avant 2017. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous souhaitez.
A tout de suite, et on se donne rendez-vous dans quelques instants avec Thierry Garrier et Elisabeth Lévy.